On m'a rapporté l'histoire d'un pasteur qui avait fait une découverte. Il avait médité ce conseil de Jésus dans Matthieu 6, dans vos prières, ne rabâchez pas des tas de paroles à la manière des païens, ils s'imaginent qu'à force de paroles, Dieu les entendra. Ne les imitez pas, car, et c'est cela qu'il avait retenu, votre Père sait ce qu'il vous faut avant que vous le lui demandiez. Alors il exhortait son auditoire, mais arrêtez donc d'embêter Dieu avec toutes vos demandes. Il les connaît. Alors tirait-il de ce texte une bonne conclusion? Certainement pas, et nous lui aurions trouvé des réponses par bien des citations, nous exhortant à lui faire connaître tous nos besoins. C'est précisément au niveau de notre compréhension du texte biblique que se situe notre petite réflexion de ce matin. En particulier, lorsque certains propos sur un même sujet semblent, par leur différence, s'opposer, se contredire, comment les appréhender? Nous construirons notre démonstration sur un exemple d'une grande simplicité, parce qu'il s'agit de l'analyse d'un fait, et un fait, ben, ça ne se discute pas trop. Où trouver cet exemple? Eh bien, sur le terrain où tout naturellement, nous nous attendons à trouver des différences dans le discours. Les quatre évangiles, une même histoire, la vie de Jésus, sous la plume de quatre auteurs différents. Et de cette histoire, eh bien, nous allons prélever un tout petit fait, le retour de Jésus en Galilée. Alors, nous allons d'abord identifier le fait. Ce voyage de Jésus que Matthieu, Marc, Luc et Jean signalent de façon quasiment identique, puisque l'un dit « il retourna en Galilée », l'autre « il regagna la Galilée ». Et puis constater que les évangélistes ont, pour l'expliquer, quasiment chacun son argument. Donc chacun apportant une explication différente de celle de ses collègues. Et pour enfin, bien sûr, tirer quelques conclusions encourageantes sur la richesse du texte biblique. Alors, le retour de Jésus en Galilée, de quoi s'agit-il exactement? Pour le comprendre, situons-le. Et sur le plan géographique d'abord. Si Jésus va en Galilée, c'est qu'il n'y est pas. On dirait aux enfants l'école du dimanche, alors s'il n'est pas en Galilée, où il est? Il est en Judée. Parce que c'est comme ça, la Palestine, vous en voyez la carte probablement, au sud, c'est-à-dire en bas, c'est la Judée. Au nord, en haut, c'est la Galilée. Et en Judée, ben c'est en bas, donc Bethléem, Jérusalem, le désert. D'où Jésus part. Et puis en haut, la Galilée, où il va, Capernaum, Nazareth, le lac de Tibériade, etc. Situons également ce voyage dans le temps. À quel moment du ministère de Jésus? En gros, vers la fin de la première année. Quels sont les grands faits de cette période passée? Le baptême, la victoire au désert sur la tentation, la désignation des disciples, et avec eux, un premier voyage en Galilée, avec ici le miracle de Cana. Et puis, alors, retour enfin en Judée, là où il se trouve, à Jérusalem, pour la Pâque, épisode fameux des marchands du temple chassés. On comprend alors clairement la précision des auteurs des évangiles, Jésus retourna en Galilée. Situe enfin ce voyage au niveau du déroulement du ministère de Jésus. Un moment charnière probablement, ou en simplifiant peut-être un peu trop, on dirait qu'il passe de la campagne à la ville. Capernaum devient en effet son centre d'activité, et Capernaum, c'est la ville au commerce fleurissant, parce que située sur un des grands axes de déplacement de l'époque. Disons peut-être en somme qu'après une certaine discrétion, vient avec ce voyage le moment du ministère public de Jésus. Retour en Galilée, on sait donc de quoi il s'agit. Observons maintenant les raisons invoquées pour l'expliquer par nos quatre évangélistes. Je commence par Marc. Marc signale d'ailleurs plus qu'il n'explique. Voici ce qu'il dit. Lorsque Jean eut été arrêté, Jésus se rendit en Galilée. Il relève donc la concomitance des faits. D'une part, l'emprisonnement de Jean, d'autre part, le départ de Jésus. On peut bien sûr suspecter qu'il pourrait y avoir un lien de cause à effet entre l'arrestation de Jean et le départ de Jésus. Mais Marc ne le dit pas. Par contre, Matthieu le laisse clairement entendre. Quand Jésus apprit que Jean avait été emprisonné, il regagna la Galilée. Quand Jésus apprit, c'est-à-dire quand la nouvelle de l'arrestation de Jean vient à la connaissance de Jésus, alors il décide de quitter la Judée. C'est le premier motif, l'emprisonnement de Jean-Baptiste. La situation nous le fait comprendre. Jésus et Jean, donc le précurseur, œuvrent au même moment. C'est la même œuvre qu'ils accomplissent. Le même message, la même pratique. Ils appellent à la repentance, ils baptisent, ils le font sur le même territoire. Et ce territoire est sous l'autorité du même homme, Hérode, et cet homme est un tyran. Il est clair ainsi que l'arrestation de Jean-Baptiste est le signe détecteur du danger. Si Hérode veut faire taire Jean, pourquoi laisserait-il parler Jésus? Jésus aperçut le danger, il va s'en éloigner, il part en Galilée. Second motif, du déplacement de Jésus. Il appartient à Jean l'évangéliste. Les pharisiens avaient entendu dire que Jésus faisait et baptisait plus de disciples que Jean. Lorsque Jésus l'apprit, il quitta la Judée et retourna en Galilée. Les choses paraissent un peu compliquées. Quand Jésus apprit que les chefs religieux avaient appris, etc., clarifions les choses en considérant d'abord les faits. Le ministère de Jean d'un côté, le ministère de Jésus de l'autre. Alors on vient d'évoquer leur point commun, même œuvre, même lieu, même moment. Cette situation suscitait tout naturellement de la part des gens une comparaison entre les deux hommes. Alors, conclusion évidente, Jésus a plus de succès que Jean, d'autant plus que lui fait des miracles. Ainsi, Jésus montait-il en popularité? Alors, Jean ne risquait pas d'y trouver ombrage. Vous le connaissez, Jean. Il connaît sa place, Jean. Il a dit, il faut qu'il croisse. et que je diminue. Mais pour les chefs religieux, c'est autre chose. Ces deux motifs de danger vont donc s'additionner. Celui des chefs religieux, soucieux bien sûr de sauvegarder leur influence sur le peuple, et Jésus est un concurrent dangereux. Et celui d'Hérode, qui va faire le choix de l'emprisonnement. Motif numéro 3, expliquant le départ de Jésus, il est également évoqué par Matthieu. Et il l'est dans le même récit, quasiment dans la même phrase. Je vous le lis. Quand Jésus apprit que Jean avait été emprisonné, il regagna la Galilée, mais il ne resta pas à Jérusalem. Il alla s'établir à Capernaum, une ville située au bord du lac, aux confins du territoire de Zabulon et de Nephtali. C'étaient deux anciennes tribus. Ainsi s'accomplit cette parole du prophète. Et il cite le prophète. Écoute, dit-il, terre de Zabulon et de Nephtali, le peuple qui vivait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Sur ceux qui habitaient dans le pays sur lequel planait l'ombre de la mort, une lumière s'est levée. Zabulon et Nephtali, ces territoires avaient souffert autrefois des guerres assyriennes et puis d'autres, mais une promesse de bénédiction leur avait été faite. Sur ces contrées plongées dans les ténèbres du paganisme, un jour se lèverait la lumière de Dieu qui seule peut éclairer tout homme. Waouh, ça fait tilt dans la tête de Matthieu. En voyant Jésus aller s'installer sur ce terrain, à Capernaum, au milieu d'une foule sans berger, Matthieu comprend tout du plan de Dieu. La prophétie, la promesse, elle est en train de s'accomplir sous mes yeux. Luc, enfin, pour le quatrième argument expliquant le départ de Jésus pour la Galilée. Jésus, rempli de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée. L'influence de l'Esprit. Luc la souligne souvent dans son évangile. Dès le début, vous vous souvenez, le Saint-Esprit descendit sur lui, c'était tout, au moment du baptême. La tentation ensuite, le Saint-Esprit le conduisit au désert. Jésus est en tout et en permanence consacré à l'autorité d'en haut, qui arrête les différentes étapes de sa vie qui le mènent de l'une à l'autre. Quand il retourne en Galilée, c'est dans la droite ligne de ce comportement, suivre le chemin où Dieu l'entraîne. Le retour en Galilée, nous en connaissons la situation, nous en connaissons les motifs, les différences d'analyse d'un même fait sont bien établies. Évidemment, pour Matthieu et Jean, le danger dont il fallait limiter les effets, tant que l'heure n'était pas venue. Hérode pour Matthieu et pour Jean, les autorités religieuses. Pour Matthieu encore, le déroulement ponctuel du plan de Dieu. Installation à Capernaum, la prophétie s'accomplit. Et quant à Luc, tout s'explique par l'obéissance de Jésus à la volonté du Père. Il suit fidèlement les étapes du chemin prévu. « À nous maintenant de proposer aussi quelques éléments d'analyse, en quelque sorte. Quelles suggestions, parmi d'autres, bien sûr, peut nous faire ce modeste événement pour une bonne compréhension des différences, c'est-à-dire finalement pour une bonne compréhension des Écritures. Tentative de réponse en deux temps. Les différences, c'est naturel. Et les différences, c'est une des richesses du texte biblique. Affirmons d'abord le caractère naturel des différences. Les diverses explications au déplacement de Jésus s'inscrivent dans le contexte général de nos différences. C'est inscrit dans la nature humaine, nous sommes différents. Nous développions cette idée, d'ailleurs, dans notre étude précédente, tellement différents que chacun, nous sommes absolument uniques. C'est pourquoi nous pouvions annoncer tout à l'heure, sans risque d'erreur, une même histoire, écrite par quatre auteurs, résultat naturel, quatre textes différents. Conséquence. Première conséquence toute simple, du domaine de l'évidence elle aussi. Ces quatre explications sont tout simplement quatre points de vue sur le même événement. Tenez, évadons-nous un instant. Je vous emmène au bord de la mer, sur un chemin de falaise. Nous nous arrêtons pour observer. Et voici pour moi, là en bas, la vision immédiate au pied des rochers, l'eau sombre, impénétrable. Elle me convient d'ailleurs bien aujourd'hui parce que je suis très triste. L'un de vous porte d'emblée son regard plus haut, là-bas au fond. Il saisit l'ensemble du paysage jusqu'à l'arrondi de l'horizon. Et puis un troisième, scrutant une surface pourtant uniforme, va se focaliser sur un point. Un petit objet qui apparaît, disparaît, réapparaît de nouveau, jusqu'à identifier dans les vagues une barque de pêcheurs rentrant au port, etc., etc. À un moment donné, au même endroit, on ne voit pas tous la même chose. De ce qu'on voit, on ne retient pas tous la même chose, selon ce qu'on choisit d'observer, selon l'impression que cela nous fait, selon les sentiments qui nous font nous promener au bord de la mer, tristesse ou joie. Ainsi sont Matthieu, Marc, Luc, Jean, tous les quatre à la même tâche, nous rapporter la vie de Jésus. Les circonstances du moment, des entretiens, des discours, des gestes, parfois. Et chacun va le faire à sa manière, selon sa propre observation, selon ses propres informations, c'est que Luc a beaucoup enquêté, selon l'objectif qu'il s'est fixé. Matthieu voulait parler aux Juifs, tout spécialement. Puis, selon son propre plan, selon son propre style. Ainsi avons-nous, par les évangiles, quatre regards différents sur la vie de notre Seigneur. Différents jusque dans le détail. À preuve, cette petite mention du retour en Galilée. Nous voici à notre deuxième analyse, la richesse du texte biblique. en deux temps. D'abord, chaque texte a sa propre richesse. Et deux, chaque texte s'intègre dans un ensemble. Et là, quelle richesse à les réunir. Chaque texte a sa propre richesse, c'est-à-dire son sens propre, indépendant des autres, comme ce motif, ces différents motifs du déplacement de Jésus. Ils sont chacun vrais. Le danger, bien sûr. La prophétie s'accomplit, bien entendu. Jésus suit les directives de l'Esprit, tout à fait. Tout est vrai dans la parole de Dieu. Elle est la vérité. Est-ce que l'un de ses regards exclut l'autre ? Est-ce que je vais en prendre un pour combattre l'autre ? Certes non. Ils sont tous recevables, tels nos différents regards sur la mer. Chacune de ces quatre analyses se suffit à elle-même. Le danger que constitue Hérode, je le comprends, je l'atteste. Je n'ai pas besoin des autres motifs pour comprendre le déplacement de Jésus. Il me suffit. Pour comprendre ce que Matthieu raconte sur Jésus, je n'ai pas besoin d'aller chercher Marc, Luc et Jean. Un livre isolé, un chapitre isolé, une histoire, un discours, une prière, une exhortation, seul. Pensez à tous ces versets qui vous viennent à la tête de temps en temps, comme « Je suis avec vous tous les jours ». Il se suffit à lui-même. Première richesse. Mais chaque texte s'intègre à un ensemble. Il est au service de l'ensemble, un peu comme chaque mot d'une phrase qui, en s'associant aux autres, va donner une idée bien supérieure à ce qu'il exprimerait tout seul. Et cette richesse de l'ensemble est double. Elle réside d'abord dans le fait que dans l'ensemble que constitue la parole de Dieu, un texte va nous aider à bien comprendre l'autre. Et en particulier, pour nous éviter des déductions fausses. Alors nous retrouvons ici l'histoire de mon introduction. Vous ne vous en souvenez plus? Je vous rafraîchis la mémoire. Voici deux textes que nous mettons en concurrence pour montrer le danger des déductions fausses. Le premier dans Matthieu, le deuxième dans Philippiens. Votre Père sait ce qu'il vous faut avant que vous le lui demandiez. Déduction possible. Ah ben alors, inutile de lui demander s'il le sait. En toute chose, exposez vos besoins à Dieu. Alors, faudrait savoir. Déduction possible. Dieu ne connaît pas mes besoins s'il faut que je les lui fasse connaître. Illustration simple, basique. C'est un peu naïve. De l'intérêt qu'il y a à réunir des textes pour bien s'assurer de comprendre l'un et l'autre. Ils ne se contredisent pas. Ils sont tous les deux vrais. Dieu nous demande de lui dire nos besoins. C'est vrai. Dieu les connaît déjà. C'est vrai. Par contre, les déductions sont fausses toutes les deux. Ne rien lui demander puisqu'il sait déjà, faux. Pourquoi faux ? Parce qu'il nous dit de lui demander. lui demander pour qu'il les connaisse. Faux! Pourquoi? Puisqu'il nous dit qu'il les connaît déjà. Et nous voilà fermes dans notre compréhension lorsque nous les associons. Dieu connaît déjà toute la liste qu'on va lui présenter et vous lui répétez peut-être tous les matins. Mais il souhaite qu'on vienne à lui pour les lui exposer dans le détail. Les différences nous aident à mieux comprendre le message de Dieu. Elles nous invitent aussi à ne pas nous prendre pour Dieu, en prenant pour parole de Dieu nos propres déductions, pas toujours justes. Les différences. Réunissons-les maintenant pour conclure. Quatre motifs évoqués par nos évangélistes pour nous faire comprendre la décision de Jésus de retourner en Galilée. À les réunir, nous allons entrevoir quelque chose de la richesse de la parole de Dieu dans son ensemble. Parce que, d'abord, elle s'additionne les différences. Ainsi s'enrichit ma compréhension du voyage de Jésus en Galilée. J'ai tous les éléments. J'ai le danger visible du moment. J'ai même les dessous de l'affaire. Une prophétie qui s'accomplit et Jésus qui suit les directives du Père. Bien petit pour le démontrer est pourtant l'exemple choisi. Si petit qu'on se dit qu'il ne manquerait rien si les évangélistes ne nous avaient rien expliqué du tout. Il nous aurait dit qu'à un moment donné, Jésus quitte la Judée pour la Galilée. Un point, c'est tout. Mais ils l'ont fait, jugeant chacun utile de consigner ce détail. Et ils ne l'ont pas fait comme on fait le journal de 13 heures, hein, avec une conférence de rédaction. On dit ça, on dit pas ça, l'un dit, l'autre dit. Non. Mais l'ayant fait, il nous laisse à découvrir, nous qui avons le privilège d'embrasser la parole de Dieu dans son ensemble, un petit chef-d'œuvre par l'addition de ces détails. Quatre motifs, sans prétention, mais réunis ici en un seul tableau, au point qu'on aurait simplement les réunissant, la trame explicative de toute la venue et de toute la vie de Jésus. Le projet de Dieu depuis longtemps annoncé. La mise en œuvre fidèle de Jésus sur notre terre, dans le moindre détail. Et puis dans quel monde ? Le monde de l'hostilité générale, où toutes les hostilités se cumulent, qu'elles soient païennes ou religieuses. En quatre motifs, d'une concision et d'une simplicité déconcertante, mais réunissant le ciel et la terre, et nous proposant à eux seuls un résumé de la vie de cet homme, Jésus, qui était Dieu venant pourvoir au salut du monde. Elle est comme ça, la parole de Dieu. On n'en finira pas de découvrir ses richesses, dans son ensemble et jusque dans ses moindres détails. On y vient comme au bord de la mer, sur le chemin de falaise, il y a tout. Il y a les vagues proches et l'horizon lointain. Il y a la lumière et les ombres. Il y a la barque et l'océan. On y vient tous les jours. On y vient à tous les moments de la vie. On y vient par tous les temps. Et on n'en finit jamais de contempler. Amen.